6h-7h, les petits matins de France Culture. Tout de suite, le journal Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Un an d'épidémie déjà et on estime à 1,6 million le nombre de morts du coronavirus dans le monde. Depuis le début de la propagation, ce lundi, les États-Unis lancent leur campagne de vaccination. Les Américains, qui sont la population la plus touchée par le Covid dans le monde, en nombre de cas et en nombre de morts, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui a été choisi, fabriqué dans le Michigan. En France, 11 533 cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C'est au-dessous de l'objectif gouvernemental des 5000 cas par jour, mais en nette baisse par rapport aux jours précédents. Une interminable saga, celle de la conclusion d'un accord de Brexit qui continue alors qu'approche la fin de l'année. Londres et Bruxelles ont décidé de prolonger encore leurs négociations malgré le fait que les délais ont été dépassés à maintes reprises. Il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire, ont affirmé dans un communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Une saga qu'aurait pu romancer John le Carré, le maître britannique du roman d'espionnage, est décédé samedi à l'âge de 89 ans. C'est son troisième roman, L'espion qui venait du froid, publié en 1964, qui lui assurera la célébrité. Un thriller écrit pendant qu'il s'ennuyait dans ses activités de diplomate à l'ambassade britannique de Bonn en Allemagne. John le Carré qui était en fait un espion au service du Royaume-Uni. La confrontation pourrait être rude. Aujourd'hui, la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron doivent échanger. En vue de la présentation du projet de loi climat attendu fin janvier, c'est le troisième rendez-vous depuis le début de l'année, mais les 150 membres de cette convention citoyenne ont assez mal pris le détricotage de leurs propositions.
Les mots de Jane Birkin, mis en musique par Étienne Dao, la complicité d'un duo. Un projet né sur les planches et désormais gravé dans ce nouvel album événement plein de mélancolie.
Sur France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Oh pardon, tu dormais, c'est son titre, paré chez Barclay. Ils sont tous deux nos invités, avant de retrouver le médecin urgentiste Patrick Peloux et ses urgences de vivre.
La Grande Table, ce lundi dès midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes dissèquent notre cœur et ses tourments entre plaisir du texte et langage qui se frotte contre la peau. Attente, je t'aime, jalousie, scène de ménage, quatre fragments à écouter les yeux fermés.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Excellente matinée, les 6h03 sur France Culture, l'heure du monde vivant de Bruno David. Ce matin, l'oisin, un drôle de ruminant.
Désolé de commencer cette chronique par une touche de vulgarité, mais cet oiseau pue du bec. Et je ne suis pas le seul à le dire. Au Venezuela, il est parfois qualifié de vache volante. Au Guyana, on l'appelle stinking pheasant, ce qui signifie faisant puant. Il est nommé Pava hedionda en Équateur et en Colombie, ce qui veut dire dinde pestilentielle. Au Pérou, on le qualifie de chancho, c'est-à-dire de porc. Mais qui est cet oiseau pour trimballer une aussi mauvaise réputation ? Il s'agit d'Opistocomus oasin, un superbe volatile à l'allure de faisan, à la tête bleue munie d'un bec robuste, orné de deux yeux rouge vif et d'une majestueuse crête plumeuse. L'oisin est un oiseau arboricole de 60 à 70 cm qui habite les forêts inondées d'Amérique du Sud, notamment celles des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Cet oiseau est unique en son genre. Voyons pourquoi. Il se nourrit de feuilles qu'il roule en boule et avale sans les mâcher. Et pour cause, les oiseaux n'ont pas de dents, comme chacun sait. Mais comment un oiseau peut-il se nourrir de feuilles ? Vous trouvez sans doute cette question saugrenue. Il faut savoir que les oiseaux sont des animaux actifs qui ont besoin d'énergie, une énergie fournie par les graines, les fruits ou les insectes, voire la viande ou le poisson, nourriture habituelle des oiseaux. Rien de tout cela chez l'oisin, qui se contente de feuilles très pauvres en énergie. Comment fait-il ? Comme les vaches. Chez les mammifères, ceux qui se nourrissent exclusivement d'herbes ont des fermenteurs associés à diverses parties de leur tube digestif, ruminants, chevaux, rhinocéros, lapins. L'oisin est le seul oiseau équipé d'un fermenteur. Chez les oiseaux ordinaires, le jabot, associé à l'œsophage, sert de poche de stockage des aliments. En arrière, une autre poche plus musculeuse, le gésier, est dédiée à la mastication. Le jabot de l'oisin est hypertrophié. Il sert de masticateur des aliments et en ce sens, il assure la fonction du gésier. Mais ce n'est pas tout. Il sert aussi de fermenteur. L'oisin ne se nourrissant que de feuilles, son jabot abrite des bactéries qui digèrent la cellulose. Elle finira transformée en acide gras, assimilée dans un second fermenteur situé dans deux diverticules intestinaux. Il va sans dire que ce circuit prend du temps. Chez l'oisin, la digestion dure entre 7 et 45 heures. Record de lenteur chez les oiseaux. Revenons au jabot, pièce maîtresse du dispositif. Il est tellement gros qu'il prend la place normalement dévolue au sternum. Or, le sternum sert de point d'attache aux muscles des ailes. Comme il est réduit, les muscles qui s'y insèrent aussi, ce qui fait que l'oisin ne peut que volter sur de courtes distances d'une branche à l'autre. Autre fait unique, le sternum se termine par une callosité qui permet à l'oisin de se caler sur une branche. Appuyé ainsi, il se repose, il ne fait rien, il fermente. C'est donc le ruminant des oiseaux, si l'on peut dire. Pas étonnant qu'il émane de lui une odeur de vache, mais qu'est-ce qu'il est beau!
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, très tôt à la radio, ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible entre autres dans l'application de Radio France. Tous les lundis, un coup de cœur pour un livre qu'on vous recommande, et aujourd'hui on va parler de Radical, de Tom Conan, édité par Albin Michel. C'est un roman sur l'attrait de la radicalité chez les jeunes Français d'aujourd'hui, à l'heure des désillusions post-industrielles, des addictions numériques et de la droitisation culturelle, avec, sur fond de crise sociale aiguë exprimée par le mouvement des Gilets jaunes, une histoire de passion amoureuse torride qui fait basculer le narrateur dans une radicalité fascisante.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Progressivement, je commençais à capter les motivations de ces jeunes types et même de ces filles qui s'étaient assis sur une semaine de glande à Rome ou à Marrakech pour aller apprendre les techniques de combat dans la campagne roumaine. Contrairement à ce que d'aucuns pensent généralement lorsqu'il s'agit d'envisager les mouvements extrêmes, quels qu'ils soient, je ne voyais pas de désespoir ou de gens véritablement perdus, entre guillemets. Il y avait surtout une quête de sens qui devait être satisfaite, une envie fondamentalement antimatérialiste de partir à l'aventure pour affronter l'adversité. Celle-ci était d'ordre politique, mais elle se mêlait aussi aux aspirations écologistes plus courantes dans l'élan depuis quelques mois était mondiale. Je ne serais pas allé jusqu'à mettre sur le même plan les diatribes de Greta Thunberg contre la civilisation industrielle et la révolte de ces crypto-fascistes 2019, mais il y avait un point commun, la volonté d'accomplir un grand dessein partagé par le plus grand nombre. Ma culture marxiste et mon attrait pour les théories de l'émancipation me poussaient vers la première option. Mais je partageais avec Harry son souci de l'oubli de soi dans l'accomplissement d'une œuvre supérieure à nos modestes intérêts individuels. C'était effectivement deux jeunesses avec deux trajectoires propres, mais un même terreau, le dégoût de l'individualisme et de la culture marchande. Bonjour Tom Conan.
Bonjour.
Nicolas, le narrateur de votre roman, est un étudiant de Sciences Po, issu de la classe moyenne. Et Harry, c'est le jeune étudiant en histoire, issu, lui, d'une famille modeste, dont il va tomber éperdument amoureux, jusqu'à épouser ses idées toxiques. C'est donc l'histoire d'une radicalisation. Mais si l'attrait physique, amoureux, sexuel et puissant entre les deux personnages, les deux amants, est-ce qu'il explique à lui seul ce qui va pousser Nicolas, le narrateur donc de votre roman, à épouser les idées complotistes et assumer même des comportements racistes ?
Non, effectivement, je pense que ça va plus loin que ça. Il y avait un terreau fertile, on pourrait dire, puisque effectivement Nicolas, lui, c'est une classe moyenne, mais classe moyenne déclassée, un peu en voie de paupérisation. Et il sent finalement que les débouchés qu'il pensait pouvoir avoir après des études à Sciences Po ne seront pas forcément à la hauteur de ses attentes. C'est un peu l'écart qui peut exister entre les aspirations et la réalité concrète du marché du travail, de l'économie aujourd'hui pour cette jeunesse. Et donc, effectivement, on sent qu'il est lui-même pas forcément au point de basculer, mais qu'il est en tout cas dans un terrain propice du fait de ses aspirations qui commencent quand même à se fracasser contre le réel et contre, on pourrait dire, un modèle économique à bout de souffle qui continue à faire rêver des gens, on pourrait dire, avec Sciences Po, par exemple, c'est les concours administratifs, voire même une carrière, pourquoi pas, dans médiatique, politique, etc. On voit bien que tout ça lui semble de plus en plus difficile, finalement, à palper. Et donc, il se dit, finalement, pourquoi pas aller plus loin dans cette critique et finalement ne même pas essayer de rentrer dans le système, plutôt essayer tout de suite de trouver une trajectoire différente.
Radical, c'est le titre de votre roman, Tom Conan. Donc on va voir comment ce Nicolas, donc cet étudiant, cet universitaire qui a grandi plutôt avec des idées progressistes, va peu à peu être attiré par cette radicalité représentée par des jeunes qui décident de basculer plutôt vers l'extrême droite pour aller très vite.
Oui, alors effectivement, le vrai problème, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est que dans cette jeunesse, et qui est quand même une problématique très imbriquée avec la question d'Internet, des réseaux sociaux, des plateformes en général, parce que finalement, aujourd'hui, la culture de cette jeunesse-là, au sens large du terme, hein, disons même les 15-35 ans, même on pourrait dire, mais encore plus celle que j'identifie, elle est toute la journée imbibée de réseaux sociaux, d'applications, de vidéos YouTube, de podcasts, de plateformes de streaming, et donc encore une fois cette culture, elle est vraiment, elle se trouve là, sur ces interfaces, sur ces différents médiums, et on voit qu'il y a en réalité, ce que moi-même j'ai fait comme une sorte de travail d'enquête, une espèce d'immersion qui d'ailleurs est devenue de plus en plus dégoûtante au fur et à mesure que je la menais, mais qui était nécessaire pour quand même de donner un contexte le plus réaliste possible. Et c'est vrai qu'il y a un continuum, encore une fois, entre, on pourrait dire, la révolte plutôt de gauche, plutôt progressiste, plutôt, encore une fois, ancrée dans l'homme et axée, effectivement, sur les théories de l'émancipation. Et finalement, on glisse assez facilement, assez rapidement, vers des thèses qui peuvent être complotistes, qui peuvent flirter avec des discours crypto-fascistes ou même ouvertement fascisants, comme je l'explique dans le texte. Donc voilà, il y a ce continuum-là. Et finalement, on ne sait plus vraiment... Par exemple, il y a un phénomène entre guillemets, avec tous les guillemets que ça suppose, toutes les précautions qu'il faut avoir, mais quelqu'un comme, par exemple, comme Alain Soral a beaucoup, beaucoup influencé cette jeunesse, hein, pour évidemment les pires résultats, parce que justement, il a, par exemple, c'est un exemple, il y en aurait d'autres à citer, mais je pense peut-être l'un des plus odieux et l'un des plus manifestes et peut-être aussi l'un des plus connus, c'est qu'il a justement fait cette espèce de pont entre des espèces de discours qui pouvaient ressembler des discours de gauche à des discours volontaristes, encore une fois, de l'émancipation, vraiment dans un sens très trivial, et ensuite en glissant vers les théories les plus clairement antisémites, xénophobes, etc. Et même pire encore. Donc voilà, en fait, cette pop culture-là, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment ça ? Elle existe comme telle sur Internet. Elle est, on pourrait dire, ce ne sont pas des médias, puisqu'en une fois, c'est des médias qui sont souvent axés autour d'une seule personne. Hein. J'ai pris cette figure à l'instant exprès, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on peut beaucoup plus facilement, effectivement, se défaire, on pourrait dire, d'un travail journalistique ou d'un travail analytique beaucoup plus précis et beaucoup plus proche de la réalité et partir dans des théories plus complotistes, beaucoup plus dangereuses pour l'homme et pour sa santé mentale, on pourrait dire.
Parlez-nous d'Harry, cet étudiant en histoire qui va donc rendre fou amoureux le narrateur de votre roman, Tom Conan.
Oui, alors Harry, lui, effectivement, lui, il vient de province à proprement parler. Il vient du nord et donc il descend, comme on le dit souvent, à Paris. Enfin là, il monte pas, il descend géographiquement et pour faire des études. Et on pourrait dire, alors c'est un peu toujours ce que j'essaie d'expliquer quand on m'interroge sur ce livre, c'est finalement, on se demande au départ si Harry, il a un coup de retard ou un coup d'avance. Soit effectivement, on peut penser qu'il a un coup de retard, c'est-à-dire qu'il a pas compris. On pourrait dire évidemment que les problématiques de notre temps, ce n'était pas évidemment pas la question raciale ou la question des communautés, mais beaucoup plus une question, par exemple, d'inégalité sociale, une question de modèle économique. Ou alors, est-ce qu'il n'aurait pas, et c'est peut-être l'erreur que fait, l'erreur grossière, mais l'erreur tragique aussi que fait Nicolas au départ, est-ce qu'il n'aurait pas un coup d'avance, entre guillemets, est-ce que finalement, lui, grille, on pourrait dire, l'étape de la contestation économique et va immédiatement, on pourrait dire, beaucoup plus brutalement et de manière aussi beaucoup plus simplificatrice aussi, sur le terrain racial, identitaire, etc. Et donc au début, évidemment, Nicolas, il est bouleversé parce que lui, il a quand même quelques repères théoriques, même s'il est évidemment en apprentissage, mais il est quand même un petit peu plus âgé aussi. Il baigne quand même dans un univers plus proprement intellectuel. Et voilà, et Harry n'arrête pas de le titiller en lui disant finalement, voilà, arrête cette contestation-là, va directement dans le dur du problème, et le dur, tu le vois bien. Et là, évidemment, il fait référence à tous les événements qu'on a tous en tête, et que cette jeunesse a forcément en tête, hein, évidemment,
le mouvement des Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes, etc. Donc, tous ces mouvements violents, finalement, qui ont vraiment bercé, évidemment, pour le pire et le meilleur, cette jeunesse-là. Et donc, effectivement, il y a cette contamination progressive, mais vous voyez, qui est à la fois idéologique, qui est à la fois dans le domaine, évidemment, de la manipulation des idées et des théories, mais également ancrée dans un réel. Et c'est pour ça que Harry est très pernicieux et très malin comme personnage, parce qu'il va vraiment accrocher le personnage de Nicolas au plus fort, vraiment au cœur, en vraiment à travers évidemment les sentiments et également et à travers le ressentiment qu'il peut avoir envers pas seulement la société, mais pas mal d'items et de problématiques qui la concernent.
Ce qui est nouveau, ce qui rend votre premier roman édité, du moins dans une grande maison d'édition, chez Albin Michel en l'occurrence, Tom Conan pour Radical, ce qui le rend contemporain, c'est la sexualité des deux personnages, parce que là, il s'agit quand même d'une plongée dans une frange marginale de la communauté gay néo-réactionnaire.
Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que bon, moi-même, pour des raisons purement, j'ai envie de dire personnelles et biographiques, il se trouve que je fréquentais, des personnes homosexuelles dans divers cadres, on pourrait dire. Et ce qui m'avait frappé, effectivement, ce qui m'avait quand même poussé à m'interroger et à aller un peu plus loin, c'est qu'effectivement, il y avait un discours chez des gens de 20 ans, 25 ans, même parfois même de moins de 20 ans, vraiment des gens au tout début des études supérieures, tout jeunes bacheliers, des discours qui étaient à la fois tout à fait progressiste, on pourrait dire, d'un point de vue sociétal, du point de vue des mœurs, du point de vue, par exemple, du mariage homosexuel, etc., tout en ayant un discours à droite, voire carrément d'extrême droite, et pire encore. Donc, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité sociologique beaucoup plus importante qu'on pourrait croire. Je sais qu'il y avait un article de Slate, il y a quelques années, que j'avais relu pour l'occasion, qui disait que, justement, il y avait, donc dans la communauté homosexuelle, masculine notamment, de cette espèce de tendance-là. Et évidemment, ça peut paraître être une frange, on pourrait dire, ultra marginale, mais en fait, pas complètement. Et justement, c'est, de prime abord, on pourrait croire que voilà, les homosexuels, par définition, se définissent comme étant des progressiste comme étant de gauche, et ben en fait pas forcément.
Et ça on le sait depuis longtemps, mais ce qui rend cette histoire très troublante, c'est que ce sont des homosexuels non pas cachés, ce sont des homosexuels revendiqués qui vivent pleinement leur sexualité, d'ailleurs d'une manière très radicale, on va y revenir, mais qui par haine d'un islam homophobe sont prêts à épouser les idées de l'extrême droite. Alors effectivement ça rend votre roman d'actualité, parce que ce phénomène-là s'est concrétisé par des victoires politiques dans des pays européens, c'est-à-dire et des pays voisins.
Oui, alors en fait, je pense que le raisonnement que fait, on pourrait dire, cette frange ou cette partie de la communauté homosexuelle, c'est un raisonnement, on pourrait dire, très très basique, très très simplificateur, encore une fois, mais qui est assez efficace chez pas mal de gens. C'est de dire finalement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, c'est-à-dire en gros, les ennemis, ça va être les homophobes. Dans les homophobes, on trouve notamment, mais évidemment pas exclusivement, des islamistes. Donc, il faut haïr les islamistes. Vous voyez, c'est une sorte de syllogisme très bête, très simple, mais qui est effectivement celui-ci. Et finalement, on pourrait dire que le drame, c'est que les différents attentats, par exemple, qui ont pu se faire au nom d'un principe totalement dévoyé de l'islam ou de l'islamisme, peu importe par quel bout on le prend, bah, tout ça, mine de rien, a quand même, encore une fois, été vraiment injecté de manière très, très brutale dans cet univers-là et dans cette communauté-là, qui s'est dit finalement, bon, bah voilà, à un moment donné, il faut identifier un ennemi, donc identifions-le et donc devenons islamophobes, devenons racistes, etc., tout en restant homosexuel, voire même en l'étant, peut-être que c'est une forme de combat pour justement une sorte de réaction anti-réactionnaire. C'est une, voilà, une nouvelle forme, on pourrait dire, de la, du droitisme, qui emprunte également, on pourrait dire, à des pratiques ou à des habitus qui sont plutôt ceux de la gauche aussi.
Et cet attrait pour la radicalité, vous l'expliquez aussi dans ce roman, Tom Conan, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, être radical pour une partie de la jeunesse, ou du moins pour les protagonistes de votre roman, c'est avoir un but dans la vie. Et quand je dis radicalité, c'est aussi, puisque là il s'agit quand même de d'une histoire d'amour entre ou de passion amoureuse entre deux garçons, ça s'exprime y compris à travers la sexualité. Parce que oui, là, on a quand même des scènes très crues d'une sexualité, là aussi radicale.
Alors évidemment, l'idée c'est aussi de, je ne sais pas si c'est forcément une nécessité pour décrire la trajectoire, mais en l'occurrence dans le chemin romanesque, en tout cas que et le disons la technique narrative que j'ai essayé d'utiliser en l'occurrence dans ce livre, c'était évidemment toujours d'être en porte-à-faux et en même temps en miroir par rapport à la société. Donc en fait, comme il s'agit de décrire une société qui est vécue comme étant ultra violente par ses personnages, même avec différentes acceptions et de façon intellectualisée, mais dans des branches et des différentes, surtout au début du livre où les antagonismes sont importants. Mais encore une fois, comme c'est un miroir, c'est un jeu toujours entre la société et ce couple, cette espèce de couple invraisemblable, et que cette société est encore une fois décrite comme violente dans ses différentes acceptions, il fallait également que la vie elle-même soit un peu à l'image de cette société. C'est-à-dire que je pense que la sexualité, il y aurait d'autres aspects hein, qu'on pourrait évoquer, mais la sexualité notamment, pourquoi est-ce qu'elle est peut-être plus brutale, en tout cas particulièrement brutale, c'est peut-être pas seulement, comme on le dit parfois, vous savez, parce qu'il y a du porno et qu'on peut se connecter facilement à des sites gratuitement et voir peut-être une sexualité un peu débridée plus facilement qu'auparavant, c'est pas seulement ça, c'est parce qu'aussi il y a effectivement un ressentiment, il y a une peur du déclassement, il y a le chômage, il y a des perspectives professionnelles de moins en moins évidentes, alors que pourtant les gens se forment de plus en plus, contrairement aussi à ce qu'on dit, hein, il n'y a pas du tout une décroissance du niveau, à mon avis, il y a plutôt une grande élévation, les gens aujourd'hui maîtrise, alors peut-être pas les fondamentaux de la grammaire de manière aussi précise, mais par contre ils parlent plein de langues, ils connaissent les outils informatiques, etc. Ils sont à l'aise dans beaucoup de milieux socioculturels, mais pour autant voilà cette espèce d'écart dont je parlais tout à l'heure entre leurs aspirations et les réalités professionnelles, cet écart est de plus en plus important, et donc effectivement il s'agit dans le quotidien d'investir cette violence, cette négation et cette espèce de refus du monde qui est de plus en plus présent et de plus en plus ressenti comme étant violent, qu'il s'agit voilà de
l'appauvrissement de la classe moyenne et ouvrière, ouais, ou de ce qu'il en reste de la classe ouvrière, mais aussi des élites, de l'addiction aux réseaux sociaux et surtout à la culture des spectacles d'aujourd'hui, hein, avec Netflix qui est représenté d'une manière très symbolique dans votre roman.
Oui, et en fait, voilà, c'est comme des espèces de doses, vous voyez, de la même manière que le sexe va être une dose qu'il va falloir prendre comme n'importe quelle drogue de manière régulière et surtout avec une dose de plus en plus importante. Bah les réseaux, les plateformes musicales, de vidéos, ce que vous voulez, c'est pareil, ils sont utilisés de cette même manière-là. Donc on se drogue au sexe, on se drogue aux vidéos, on se drogue aux podcasts, à Netflix ou à d'autres plateformes également, de cette même manière-là. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'augmenter la dose parce que la frustration est toujours présente et qu'on a l'impression que c'est une fuite en avant, évidemment, mais c'est une fuite en avant qui n'arrive pas à être gérée d'une certaine façon, et donc on arrive un peu bêtement, un peu basiquement à gérer de cette manière-là, en s'envoyant toujours plus effectivement de streaming. Voilà, on s'endoctrine en streaming, c'est littéralement ça.
Ouais, c'est un répertoire aussi de toutes nos nouvelles addictions face à nos questions existentielles. Mais en lisant Radical, Tom Conan, on a l'impression aussi qu'on est en terrain connu. Il y a un peu de Michel Houellebecq, un peu de Brett Easton Ellis, un peu de Guillaume Dustan.
Il se trouve que pour le coup c'est vraiment emprunté à quand même à pas mal aussi de choses en sciences sociales qui sont pas forcément utilisées de manière explicite puisqu'il s'agissait de faire un roman et non pas un essai, même si je suis quand même convaincu que le roman est aussi un instrument de connaissance. Mais il se trouve que dans ma bibliothèque, on pourrait dire, et ma bibliographie intuitive qu'on peut aussi voir dans le livre, c'est aussi des personnes comme Alain Badiou, par exemple, qui ont beaucoup influencé, on pourrait dire, mon travail, en tout cas ma manière d'appréhender un certain nombre de problèmes. On pourrait également voir effectivement un certain nombre de pans de la philosophie allemande, de Hegel, de Marx, etc., pour comprendre un certain nombre de phénomènes économiques et sociaux, et notamment même la compréhension de l'idéologie, hein, par exemple.
C'est le moment où je dois vous rappeler quand même aux éditeurs que vous avez fait HEC, hein.
Oui, après, c'est forcément ça qui m'a le plus amené vers ces disciplines-là, mais en tout cas, oui. Ouais, non, bah après, il s'agissait vraiment de faire un vrai roman. Donc, moi, je pense que vraiment le roman, je suis même très axé sur cette question-là. Je pense pas du tout, par exemple, comme des gens comme Édouard Louis, que le roman est terminé ou en voie d'extinction. Je pense au contraire que justement, il s'agit de mettre à distance le plus possible, même si on est toujours situé, bien entendu, hein, et qu'on parle toujours d'un endroit, on a un habitus, on a une origine sociale, universitaire éventuellement, etc. Mais je pense que le travail romanesque tout de même, quand bien même on considère que le roman est aussi un instrument de connaissance, c'est toujours mettre à distance un maximum. Donc moi j'essaye tant bien que mal, hein, et autant que c'est possible, de mettre à distance cela pour rentrer et aller le plus loin possible. Parce qu'en fait, je trouve que le vrai problème quand on joue pas ce jeu-là, parce que je pense que c'est que la création, ça reste quand même aussi un jeu, même si on peut traiter des choses infiniment compliquées et graves, on pourrait dire. Mais il s'agit de mettre à distance cela pour justement s'autoriser tout. Et c'est vrai que moi-même, ce que je trouve très fort, d'ailleurs, Badiou, quelqu'un qui dit ça au sujet du roman, il dit contrairement à un essai, on ne sait jamais ce qu'on va écrire dans un roman. Et là, c'est exactement ça. Je ne savais pas moi-même où est-ce que les personnages allaient m'emmener. C'est beaucoup plus les personnages mais on pourrait dire même le troisième personnage de ce roman, qui est le couple lui-même, formé par Nicolas Harry, ce couple invraisemblable, qui nous amène très loin, qui nous permet effectivement d'envisager des situations que moi-même, je n'aurais pas pu prévoir dans un plan. Vous voyez, que j'aurais prévu en amont.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture. Paul in the club wants to shake this up. He told me, so what's up? Are you bottom or top? Can't answer this shit. No one's meant to know it. So I have to hide till the end of the night. Ratatata, I am tired of these lies. Can I stay on the side? I don't like to be shy. This is the night. Everything's alright. Can't stop the feeling. It is coming back. Can't put the stuff on. Wearing full black. Ball said, come on. Got his favorite track. Ball is taking my hand. Something is in my head. Oh my god, it's too late. You know why? It's so great. Can I find the one I need? Can I try the simple way? Every time I wanna scream chaos. Tell me why I've never been someone who enjoys the day. At this game I wanna cheat chaos.
Tom Conan, on a retrouvé vos musiques, vos chansons, en faisant des recherches. Donc, vous êtes artiste, vous chantez, vous faites de la musique. Oui. Avant la sortie de votre premier roman radical chez Albin Michel, vous avez écrit deux livres, Le Camp, où vous relatiez vos études à HEC. Oui. Vous avez aussi co-signé le manuel de résurrection. Tous les deux textes ont été auto-publiés. Quel mot faut-il employer? Vous êtes artiste, chanteur, écrivain?
Oui. Moi, je me vois plutôt comme un artiste au sens très large du terme, dire créer des formes que j'espère les plus esthétiques possibles. Après, on peut utiliser les termes plus neutres d'aujourd'hui comme créateur de contenu, même si je trouve ça absolument atroce. Mais en tout cas, j'essaye de trouver une espèce de cohérence. En tout cas, tout ça m'accompagne. Il y a un projet esthétique derrière, en tout cas, dans ce sens-là. Après, il n'est pas forcément...
Il est esthétique ou il est aussi... idéologique, intellectuel.
Il y a aussi une volonté d'être témoin du monde, de rendre connaissance de pas forcément de ce qu'on voit, mais en tout cas de ce qui me paraît être intéressant et important en tant que témoin vivant dans cette époque-là. Tout à fait.
Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Radical de Tom Conan, édité par Albin Michel. On se retrouve demain à la même heure. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar et réalisée par Vincent Abouchard, comme tous les jours. Mais ce matin, à la technique, Élise Le. Bonne journée à vous, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
En ce jour de vote des grands électeurs aux États-Unis, le temps du débat clôt une folle année électorale qui a vu la défaite de Donald Trump face à Joe Biden.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
À jouer avec les symboles de fierté et de puissance, Donald Trump a manié une matière mouvante qui s'est peut-être retournée contre lui. Donald Trump a-t-il rendu à l'Amérique sa grandeur ? C'est le thème du temps du débat.
Le temps du débat, ce lundi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Plus que de la grande musique, de la musique pour grandir. Plus qu'une voix, une voix pour aller plus loin. Depuis 2007, la maîtrise de Radio France permet à des enfants de la ville de Bondy de grandir en musique en pratiquant au sein de leur école l'excellence du chant choral. Aux côtés de la Fondation Musique et Radio Institut de France, aidez-les à poursuivre cette aventure unique. Faites un don pour la maîtrise de Radio France à Bondy dès aujourd'hui sur radiofrance.com. Plus qu'un don, la possibilité de révéler leur don.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Des nouvelles contrastées sur le front de l'épidémie de Covid. En France, le nombre de cas est en baisse, mais pas suffisamment pour accélérer le déconfinement. Certains secteurs souffrent, particulièrement ceux qui ne sont pas concernés par le fonds de solidarité. Nous l'entendrons. Nous reviendrons également sur la discussion qui doit avoir lieu aujourd'hui entre les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron, qui a semblé dernièrement prendre à la légère certaines de leurs propositions. Enfin, la remise de la Légion d'honneur par la France au président égyptien Al-Sissi ne passe pas. Ce matin, l'intellectuel italien Corrado Ogias va renoncer à cette même décoration en signe de protestation. Alors que les États-Unis commencent ce lundi une campagne de vaccination, la France, elle, entame ce qui s'apparente à une campagne massive de dépistage ciblée sur quelques agglomérations, Le Havre et Charleville-Mézières pour commencer, avant, en janvier, Roubaix et Saint-Étienne, des endroits où le virus circule très rapidement. Le tout en vue d'un confinement un peu moins strict qu'attendent, mais que voient s'éloigner pourtant les bars et les restaurants, et puis également le monde de la culture. La filière hôtellerie-restauration appelle à un rassemblement aujourd'hui à 13h sur l'esplanade des Invalides à Paris et dans plusieurs villes de France. La filière dont tous les acteurs sont sinistrés, y compris les métiers moins visibles que sont par exemple les blanchisseries qui fournissent les hôtels. Des blanchisseries comme celle de Cyril Coria dans l'Essonne, particulièrement sinistrée et qui n'a pas droit au fonds de solidarité.
On est impacté de la même manière que les hôtels et les restaurants. Mais notre gros souci, si vous voulez, actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à se faire entendre non plus parce qu'on n'a pas les mêmes dispositifs d'aide que nos clients. On a le chômage partiel, oui, mais c'est le seul point en fait que nous avons. Tout le reste, on est exclu. Nous sommes dans la liste des fournisseurs de ces secteurs qui sont sinistrés. En fait, on est touché de la même manière, mais en plus, vous sortez du dispositif quand vous avez plus de 50 salariés. Donc à aujourd'hui, nous sommes une blanchisserie donc dépendante de ce secteur et nous avons plus de 50 salariés. Donc on ne bénéficie d'aucune aide. On est à peu près sur une base prévisionnelle de 20% de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Le mois dernier, nous avons fait 6% de chiffre d'affaires. Donc nous avons à peu près 300 clients au total et on a à peu près une dizaine de clients qui restent ouverts. Quand vous ouvrez une usine, que vous avez 40 draps au lieu d'en avoir 40 000, forcément, vous êtes dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, c'est très simple. S'il n'y a pas un soutien en fait de l'État ni de la région, globalement, on arrive sur une situation où nous avons trois mois de visibilité. Ensuite, il y aura une décision à prendre. C'est soit, en gros, vous vendez votre entreprise ou soit vous la mettez en redressement. Donc, quand j'entends le discours de M. Castex qui dit texto qu'il ne laissera aucune société au bord de la route, c'est faux.
Des propos recueillis par Laura Dulieu. En France, les chiffres du Covid de ces dernières 24 heures montrent une décrue du nombre de cas, mais une légère hausse des hospitalisations. Elle est annoncée comme franche et directe, la discussion qui doit se tenir entre Emmanuel Macron et les membres de la Convention citoyenne pour le climat ce lundi. Accompagné de plusieurs ministres, le chef de l'État a prévu de discuter plusieurs heures avec les citoyens, tirés au sort et chargés d'élaborer des propositions pour une grande loi climat. Des propositions revues à la baisse par le gouvernement, ce qui a passablement irrité ces mêmes citoyens. À 17h, au Conseil économique et social, ils vont donc en discuter. Les membres de cette CCC, comme on l'appelle, avait publiquement interpellé il y a peu le président sur le manque d'ambition générale de l'exécutif à leur proposition, sans compter qu'Emmanuel Macron, lors de son interview récente à Brut, a qualifié ses propositions de « trucs qui ne seraient, je cite toujours, ni la Bible ni le Coran ». Quoi qu'il en soit, pour Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, ce serait une erreur de ne pas écouter les attentes des citoyens. Écoutez-la au micro de Véronique Reverotte.
Les citoyens sont prêts. Et cette expérience participative de délibération collective que le président de la République a bien voulu installer avec la Convention citoyenne pour le climat part de ce constat. Un, on ne peut pas emmener les citoyens là où ils ne veulent pas aller. Et deux, les citoyens sont beaucoup plus prêts que sans doute beaucoup de responsables politiques ne le pensent. Je pense que ces processus de délibération collective, à condition qu'ils soient profondément respectés, c'est-à-dire qu'on respecte la parole des citoyens, j'y tiens beaucoup, qu'on les considère comme des acteurs responsables et non pas comme des enfants, c'est ça qui va donner la légitimité, le courage et la capacité aux responsables politiques d'aller de l'avant. C'est difficile de changer. Il y aura toujours des voix pour dire « ça n'est pas le moment ». Mais justement, les citoyens disent « c'est le moment ». Donc, c'est la meilleure façon d'associer les citoyens, les faire devenir acteurs de leur destin, que le changement soit voulu et non subi. C'est la meilleure manière pour que on arrive ensemble à conduire toutes ces actions qui évidemment sont difficiles.
Laurence Tubiana. Le monde de la culture toujours confiné malgré les protestations et autres pétitions de plus en plus nombreuses. Le président de la métropole de Lyon a affiché hier son intention de rouvrir le musée des Confluences et demander l'autorisation au Premier ministre. Il ne devrait pas l'obtenir. Il reste pourtant un lieu de culture qui est redevenu accessible au public. Ce sont les bibliothèques et les médiathèques rouvertes depuis le 28 novembre. Depuis cette date, donc, le public est de retour malgré les contraintes sanitaires. Le reportage de Louise Adélaïde Boinard.
Les habitués de la bibliothèque pour tous, Théophile Gauthier, sont ravis de retrouver leur sanctuaire. Mais certaines choses ont changé dans cet établissement spécialisé dans les nouveautés littéraires. Un strict contrôle des règles sanitaires est appliqué, gel à l'entrée, nombre limité de personnes dans la boutique et désinfection des livres.
Vous voyez là cette petite caisse, c'est tous les livres qui vont partir à la désinfection et en quarantaine avant d'être remis en circulation.
Agnès est trésorière de la bibliothèque Théophile Gauthier.
On couvre les livres, donc il y a une couverture en plastique, parce que s'ils n'étaient pas couverts, on ne pourrait pas mettre de l'alcool. Donc on fait ça et après on les laisse en quarantaine.
Les lecteurs retrouvent surtout l'expertise et le contact avec un personnel passionné.
Vous allez lire un livre extraordinaire.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire, donc c'est pour ça que j'avais demandé qu'on le mette.
Marie-Hélène Lafon, c'est vraiment une auteure.
Ah oui, et bien justement, je ne la connais pas. Vous voyez,
extraordinaire.
Antoine Joly de la médiathèque André-Gide partage ce constat. L'échange est au cœur des relations bibliothécaires-lecteurs.
Depuis 2 semaines, la bibliothèque revit avec ses usagers à l'intérieur. Les bibliothèques ont fait un effort assez important sur ce côté convivial, ce lien social. On parle de troisième lieu, la bibliothèque comme un lien de sociabilisation.
Ce que confirme Claire de la Bibliothèque pour tous.
Il y a pas mal de personnes isolées qui sont contentes de venir parce qu'elles s'assoient, puis elles parlent un petit peu. Et puis on fait aussi du portage à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc ça leur fait une visite. Et donc il y a une vraie demande.
L'année dernière, 6 millions de Français avaient une carte de bibliothèque.
C'est une décision prise par l'Élysée qu'il n'a pas du tout apprécié. L'intellectuel italien Corrado Ogias va se rendre ce matin à l'ambassade de France à Rome pour restituer sa Légion d'honneur en réponse à la remise de cette même décoration au président égyptien Al-Sisi. La Légion d'honneur qui a été remise donc par Emmanuel Macron au chef de l'État égyptien soupçonné de bafouer les droits humains dans son pays et qui a fait réagir plusieurs intellectuels et ONG, dont Corrado Ogias, donc fondateur du théâtre d'avant-garde romain et animateur très connu de la vie culturelle italienne. Le reportage du correspondant de France Culture à Rome, Antonino Gallofaro.
Ces atroces criminels condamnés par Corrado Ogias, eh bien, ce sont les assassins de l'étudiant italien Giulio Regeni, retrouvé mort au Caire en 2016 après avoir été torturé. Cet assassinat représente pour les Italiens une blessure sanglante, comme condamne l'écrivain. Il ne comprend donc pas la décision de Paris d'honorer le président égyptien.
J'aurais attendu de la part du président de la République française un geste de compréhension, sinon de fraternité. au nom de l'Europe aussi, que, ensemble, nous essayons si durement de construire.
Depuis bientôt 5 ans maintenant, cette affaire Reggiani émeut l'Italie qui réclame toujours la vérité sur la disparition de l'étudiant. Corrado Ogias n'a donc pas supporté de voir qu'à Paris, la réelle politique l'a emporté au détriment d'un allié historique.
Je ne veux pas paraître trop naïf. Je connais bien les mécanismes des affaires et de la diplomatie. Mais il y a des limites. Dans ce cas, ces limites ont été dépassées, sinon outragées.
C'est donc avec douleur que Corrado Ogias a décidé de restituer sa Légion d'honneur. Il la portera lui-même ce matin à l'ambassade française dans la capitale italienne.
Et puis cette information qui vient de tomber, une explosion d'origine externe aurait eu lieu à bord d'un pétrolier au large de l'Arabie Saoudite. On n'en sait pas plus pour l'instant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Enfin, on a appris la mort cette nuit de John le Carré, écrivain britannique de romans d'espionnage, ancien espion lui-même pour le compte de Sa Majesté, l'auteur de L'espion qui venait du froid, de La Constance du jardinier ou encore de La taupe, est décédé des suites d'une maladie à l'âge de 89 ans. Ses 25 romans inspirés de sa carrière d'agent secret l'ont hissé au rang, selon Stephen King, d'un géant littéraire, un écrivain brillant qui avait réussi à pénétrer la culture populaire. Dans son dernier roman, paru en 2019, John le Carré dressait un portrait sans concession du Premier ministre Boris Johnson, dépeint en porc ignorant. Il qualifiait le Brexit de folie. Le temps de ce lundi 14 décembre, une faible perturbation va se décaler d'ouest en est, en passant par la région Centre et Île-de-France. Elle s'étendra l'après-midi du nord de l'Aquitaine vers les Ardennes. D'ailleurs, temps plutôt agréable. Les températures minimales ce matin entre 4 et 12 degrés d'est en ouest et cet après-midi de 8 à 13 degrés, de 12 à 15 à l'ouest. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre journal des idées ce matin, des syndicats de médecins alertent sur les insultes et les menaces reçues par leurs adhérents de la part des milieux anti-vaccins et complotistes les plus radicaux.
Oui, on a le droit de douter, bien sûr, Anne-Laure, mais la brutalisation du débat qui se développe à ce sujet, comme à d'autres, ne fait qu'ajouter à la confusion générale, d'autant plus que les médecins eux-mêmes ont une parole très prudente, souligne Jacques Battistoni, président du syndicat MG France. Philosophie Magazine publie opportunément un dossier plaidant pour l'art de la nuance. Alexandre Lacroix souligne qu'il s'agit d'un pari sur la nature même du réel. La couleur du monde se présente comme un subtil dégradé, écrit-il, et il cite Héraclite, il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie. Nicolas Castino évoque les travaux de la chercheuse américaine Whitney Phillips sur la haine en ligne, qui paie beaucoup plus que la mesure ou la nuance, et ce, à tous les sens du mot payer. En termes d'économie de l'attention, les contenus ayant une charge émotionnelle forte suscitent les réactions et multiplient les interactions. Ils sont donc privilégiés par les plateformes, une logique qui n'a pas tardé à contaminer les grands médias mainstream où faire le buzz est toujours plus rentable qu'examiner posément un problème. Et sur le web, les conséquences éthiques de nos actes en ligne sont obscurcies. Emmanuel Lévinas avait fait du visage le lieu du surgissement de l'éthique, un caractère d'évidence qui illustre à contrario l'expression « perdre la face ». Et c'est dans le face-à-face que s'impose le respect à l'égard de l'humanité de l'autre. Sur Internet, le visage n'est qu'une parodie, la face figée de notre photo de profil. Dans la dernière livraison de la revue Commentaire, Pierre Manant analyse en finesse et nuance la récente encyclique « Fratelli Tutti » du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale, où la parabole du bon samaritain a une place d'honneur. À propos du prêtre et du lévite qui passent leur chemin sans porter secours aux malheureux détroussés, roués de coups par des brigands, le pape souligne que ces personnes occupant des fonctions importantes dans la société n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Or, précise Pierre Manant, en citant les textes, le Lévitique et les Nombres, ces deux hommes de foi étaient tenus par la loi de pureté qui proscrit de toucher un cadavre ou quelqu'un à demi-mort. De la figure du Samaritain, le pape esquisse de même une interprétation moderne de nature à inspirer nos contemporains, je cite, « Il s'est arrêté, il lui a fait don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche. » Surtout, il a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant, il lui a donné son temps. » Mais, remarque le philosophe, le samaritain a une ampleur dans les gestes, une liberté dans la démarche, une compétence dans le soin à toute blessure, une autorité dans la parole qui ne sont pas d'un homme. Les pères de l'Église ne s'y trompèrent pas, le samaritain n'est autre que Jésus lui-même. La parabole ne nous invite pas seulement à nous identifier à l'autre, mais à reconnaître et cultiver notre dimension spirituelle. Elle nous enseigne d'abord que nous n'avons ni la charité, ni la force, ni la vertu réparatrice, ni la patience, ni l'espérance pour être comme le samaritain, et à la fois que nous devons nous faire les prochains les uns des autres et que nous ne le pouvons pas si nous comptons sur nos propres forces, si nous nous contentons d'être des humanistes. Car, ajoute Pierre Manant, la compassion simplement humaine est un sentiment qui, comme tel, n'est pas susceptible d'être qualifié moralement. Laissée à elle-même, la compassion pour la victime se convertit aisément en compassion pour le bourreau. Elle ne devient éthique que si elle est guidée par ses vertus, que sont le courage, la justice et la prudence. Dans sa chronique de l'Avent, publiée par La Croix l'Hebdo, Frédéric Boyer évoque l'épreuve du don. La demande d'autrui en souffrance ne nous conforte pas tant dans la bonne conscience de la charité qu'elle ne nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Elle nous convoque à l'ensemble vide que nous formons les uns avec les autres, au sens mathématique du terme, je cite, « Un ensemble vide ne contient rien, mais comme c'est un ensemble, il n'est pas rien. Ce que l'on donne en donnant n'est pas ce que nous possédons, mais précisément ce que nous n'avons pas. Ce rien qui n'est pas rien, puisque nous sommes ensemble, ce vide entre nous que le don transforme en événement, en rencontre. » Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la reconnaissance d'Israël par le Maroc, vous revenez, Julie, sur des relations séculaires.
Oui, à ce que l'accord dit de normalisation annoncé la semaine dernière entre les deux pays a contrarié, le ministre des Affaires étrangères marocain a répondu « Mais nos relations étaient déjà normales ». C'était dans un entretien paru hier dans la presse israélienne. Bonjour Hassni Abidi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, chargé de cours à l'Université de Genève. Alors cet accord entre le Maroc et Israël, il a ceci de différent des autres accords dits d'Abraham, que les deux pays ont une histoire commune forte, contrairement aux Émirats Arabes Unis ou à Bahreïn. La communauté juive marocaine, très présente aujourd'hui à Casablanca, comment a-t-elle évolué, disons, sans remonter jusqu'à l'Antiquité, mais au moins la fin du XVe siècle, quand arrivent des milliers de Juifs espagnol expulsé par les rois catholiques?
Oui, la relation, elle est importante. L'accord aussi, vous l'avez dit, entre le Maroc et Israël est à ne pas comparer avec celui conclu avec les Émirats, le Bahreïn et le Soudan, parce que le parcours de la communauté juive au Maroc est singulier. C'est une relation très spéciale dans le monde arabe. Cette présence, elle est antérieure même à la présence arabe et islamique, et elle s'est accentuée, bien sûr, après mai 492, ces vagues de juifs, justement, chassés par l'Espagne. Et aujourd'hui, la communauté juive, et ça a été depuis plusieurs décennies, c'est une composante essentielle de l'identité juive. Ça a été même confirmé par la constitution révisée de 2011. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Marocain, c'est on parle aussi du Marocain musulman, arabe, berbère, mais on parle aussi du Marocain juif.
Aujourd'hui, je crois que la communauté israélienne, enfin juive, représente 2500 à 3000 personnes au Maroc. Au début des années 90, Hassan II, le roi marocain, se vantait d'avoir 750 000 fils comme ambassadeurs en Israël. Ils sont moins nombreux aujourd'hui, mais en tout cas, ils reviennent chaque année au Maroc. Ces réseaux diasporiques, est-ce qu'ils ont contribué à alimenter une certaine forme d'échange diplomatique en l'absence de relations officielles?
C'est vrai que les relations ne sont pas avouées en quelque sorte, elles n'ont jamais été officialisées avant le dernier accord, mais il faut dire que c'est l'élément politique qui a compliqué la relation entre Israël et le Maroc, mais aussi entre la communauté juive et le Maroc, et qu'il faut rappeler a toujours été soutenu par les sultans du Maroc, et c'est pour crois qu'il y a encore cette relation et cette relation d'amour entre la communauté juive du Maroc et le roi Mohamed V, c'est le grand-père de l'actuel roi, qui a refusé tout de même de valider la loi Vichy et qui voulait un sort atroce pour les Juifs du Maroc. Mais c'est vrai que les réseaux sont importants, malgré la création de l'État juif et l'exode de Juifs du Maroc vers Israël,
mais aussi
les différentes... 1948 et les différents conflits israélo-palestiniens, mais le Maroc a réussi avec sa communauté à garder un lien très important. Les réseaux sont importants, certes, non seulement en Israël, mais aussi dans d'autres pays en Europe et aux États-Unis. Il faut rappeler, par exemple, que plusieurs ministres en Israël, David Levy, membre du Likoud, était de Rabat, originaire de Rabat, il a toujours sa résidence à Rabat. L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, du côté, bien sûr, de la gauche, c'est Shlomo Ben Ami, il est aussi marocain, originaire de Tanger, et évidemment, cette communauté marocaine en Israël a réussi à trouver sa place et à cimenter sa paix, à devenir un acteur politique important et par conséquent, donc, garder le lien avec le Maroc.
Voilà, il y a encore un temps récent où le Maroc-Israël entretenait des relations diplomatiques avec notamment des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv, mais qui avaient fermé au début des années 2000 lorsqu'avait éclaté la seconde intifada dans les territoires palestiniens. À l'inverse, Israël a été très présent auprès du Maroc et encore une fois de façon officieuse sur la question du Sahara occidental, notamment dans les années 80 en envoyant des ingénieurs pour ériger un mur de défense contre le front Polisario en plein Sahara occidental sur 2700 kilomètres. Est-ce que c'était toujours le cas ces derniers temps? Est-ce qu'Israël était encore présent sur la question du Sahara occidental?
Oui, Israël est toujours présent. Israël a toujours rendu des services énormes au royaume marocain et parce que le Maroc aussi était présent quand Israël le demandait. Il faut rappeler cette histoire de 1965, le fameux sommet arabe à Casablanca où les Israéliens ont demandé au roi Hassan II de transmettre les enregistrements de ce sommet. Et pour certains Israéliens, officiers militaires, c'est grâce justement à ces enregistrements faits à l'insu des dirigeants arabes que Israël a probablement réussi à anticiper la guerre 1967 et l'a gagné. Il faut rappeler la fameuse rencontre au Maroc entre Hassan II et Shimon Peres. Donc le lien, en tout cas sur le plan sécuritaire, n'a jamais été coupé. Il y avait un échange important. Ce mur, par exemple, le mur au Sahara occidental, qui est truffé d'appareils sécuritaires et de caméras, c'est une industrie israélienne. Et ces relations ont continué et qui ont même touché le domaine économique et agricole.
Cette question de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, puisqu'on rappelle que c'est la contrepartie que Donald Trump a accordée au Maroc en échange de cet accord de reconnaissance, c'est, bon, vous reconnaissez, vous signez avec Israël cet accord de reconnaissance mutuelle et nous, on reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Est-ce que d'après vous, c'est la seule et unique raison qui ait poussé le Maroc à franchir ce pas, puisqu'aujourd'hui, plusieurs pays arabes lui reprochent d'avoir fait un choix entre le Sahara occidental et la question palestinienne, deux causes sacrées?
C'est une obsession pour le roi actuel, pour le roi Mohamed VI, la question de la marocanité du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. D'ailleurs, le Maroc, avec Israël, et il faut rappeler qu'Israël a joué un rôle très important pour convaincre le président Trump, cette question du Sahara est une priorité. Il faut aussi remonter dans le temps. En 2006, les communicants du Palais Royal disaient toujours cette formule « Taza avant Gaza ». Taza, c'est une ville à l'extrême-est du Maroc, à 460 kilomètres de Casablanca. Ça signifie déjà à l'époque que la question du Sahara avait une centralité royale. Beaucoup plus que la question palestinienne et évidemment cette offre ne pouvait pas être refusée par le Palais Royal, à savoir reconnaître le Sahara comme territoire marocain par le président américain. Dès lors, le Maroc était prêt à aller plus loin que la normalisation, d'autant plus que la relation déjà était bel et bien présente entre Tel Aviv et Rabat.
Et aujourd'hui, le Maroc assure que la reconnaissance d'Israël ne change rien à son engagement à établir la paix dans le conflit israélo-palestinien. On verra ce qu'il en est dans les prochains mois. Les accords de reconnaissance que les Émirats arabes unis ou Bahreïn ont signés avec Israël, celui avec le Soudan n'a pas encore été signé officiellement, on verra aussi s'il le sera. Mais ces accords, ils ont ouvert la voie à des relations économiques présentées comme avantageuses. Là, en ce qui concerne le Maroc-Israël, les relations économiques, elles existaient déjà.
Oui, les relations économiques existaient déjà, il y avait un échange très important. Certes, il n'est pas déterminant dans l'économie marocaine, mais on a une moyenne de 50 millions de dollars par année. Entre 2014 et 2017, selon les chiffres officiels, le volume d'échange a atteint 145 millions de dollars. Mais au-delà de ça, c'est surtout garder le lien, les relations, les entretenir un petit peu la présence des Marocains, l'industrie israélienne au Maroc. Et il ne faut surtout pas oublier que aussi une économie marocaine très importante est dirigée par des Marocains qui sont de confession juive. Et évidemment, cette élite marocaine a aussi entretenu des relations avec un tissu économique et social très important et avantageux pour le Maroc, que ce soit d'ailleurs en Israël, mais aussi aux États-Unis. Et c'est ça qui fait un petit peu la force de cet accord, c'est que des associations de juifs marocains installés aux États-Unis qui entretiennent d'excellentes relations avec le lobby juif américain ont aussi joué un rôle important dans la signature de ce décret par le président américain.
Alors, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, le Maroc est le seul pays arabe où, depuis les printemps arabes, se sont maintenus au pouvoir les islamistes, le parti islamiste de la justice et du développement. Il est en porte-à-faux avec cet accord ou est-ce qu'il était d'accord ?
C'est la grande inconnue de cette actualité parce que le chef du gouvernement, M. Al-Othmani, et en même temps il est le chef de file de ce parti, le Parti Justice et Développement, qui est un parti islamiste certes, mais c'est un parti qui a été domestiqué par le Mahzen, par le palais royal. Donc sur la question de Sahara, il est beaucoup plus royaliste que le roi lui-même. Mais en revanche, sur la question israélo-palestinienne, les avis divergent. Et ce n'est pas seulement le cas des islamistes, mais aussi le cas de certains partis nationalistes. C'est une situation inconfortable pour le parti islamiste, pour son audience, d'autant plus qu'on se prépare à des élections législatives l'an prochain, et ça risque donc évidemment de compliquer un petit peu la communication royale en termes de reconnaissance de relations entre l'État d'Israël et le Maroc.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Hesni Abidi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen et que vous avez publié récemment cet ouvrage aux éditions Éric Bonnier, Moyen-Orient, le temps des incertitudes. Merci à vous et bonne journée.
Bonjour.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les mots de Jane Birkin, mis en musique par Étienne Dao, la complicité d'un duo.
Oh pardon, tu dormais.
Un projet né sur les planches et désormais gravé dans ce nouvel album événement plein de mélancolie.
Sur France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Oh pardon, tu dormais, c'est son titre, paré chez Barclay. Ils sont tous deux nos invités, avant de retrouver le médecin urgentiste Patrick Peloux et ses urgences de vivre.
La Grande Table, ce lundi dès midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture.
Oui.
Bon lundi à tous. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre humeur du jour Guillaume, et si l'on évoquait enfin la souffrance des très riches.
Mais oui Julie, les grosses fortunes souffrent, une grosse fortune d'ailleurs. Surtout le gagnant de l'euro million, celui
pauvre.
Qui a remporté 200 millions la semaine dernière, ce qui le rend d'un coup plus riche qu'Arnaud Lagardère. Eh bien il souffre cet individu, je l'ai lu dans Le Parisien, et j'espère que ça va inciter les pauvres à moins la ramener. ramener. Il souffre tellement d'ailleurs qu'il ou elle n'a pas osé jusqu'ici se faire connaître. Pourtant, la Française des Jeux a tout prévu. Il y a un responsable de la Française des Jeux qui est interviewé dans Le Parisien. Il explique que ça va être un choc, qu'il va y avoir le moment de l'émotion, puis le moment de la sidération. Après, il va y avoir la culpabilité. C'est une phase atroce, je ne la souhaite à personne. Le gagnant se sent coupable. Pourquoi c'est moi qui ai gagné, se demande-t-il. Il se ronge les sangs, donc. Et puis en plus, avec le Covid, il risque d'y avoir, c'est toujours le responsable de la Française des Jeux qui l'explique, la frustration, parce que voilà, il va pas pouvoir dépenser son argent en s'envolant vers les Seychelles. C'est l'exemple qui est donné. Bref. Un choc, une sidération, une frustration, vraiment, j'en connais des nantis au RSA qui devraient moins se plaindre de leur sort. Alors heureusement, une cellule psychologique est là pour accueillir ce petit frère des riches en proie aux pires tortures, car en substance, explique Le Parisien, ce n'est pas difficile d'être riche, ce qui est compliqué, c'est ce que j'ai compris dans le papier, c'est de le devenir. Bien sûr, il est toujours possible que le gagnant soit déjà millionnaire, voire milliardaire. Peut-être que Bernard Arnault a acheté un ticket juste pour embêter les pinsons Charlot, hein. Les évangiles le disent, d'ailleurs je lis les évangiles selon saint Matthieu, à ceux qui ont tout, tout sera donné en surplus. Les évangiles connaissaient Bernard Arnault, mais pas les pinsons Charlot. Mais si par malheur, le gagnant de l'euro mignon était un pauvre, alors là, les ennuis commenceraient. On retrouve dans cet article du Parisien finalement la véritable hantise française pour les transclasses. Il n'y a pas de honte à être riche ou pauvre, dit en substance la morale nationale. Le difficile, c'est de cesser d'être pauvre pour devenir soudainement riche. C'est comme si l'ordre du cosmos en était contrarié. D'ailleurs, si le gagnant de l'euro million était un pauvre, le mieux serait qu'il donne discrètement sa fortune à Bernard Arnault, lui au moins, et habitué à vivre avec ce fardeau.